Ce que je sais, c'est que maintenant, je sais à peu près le nombre, ce que je n'avais pas jusque-là. Alors, nous allons commencer notre cours d'histoire de la spiritualité, qui est une deuxième partie. Il y a un cours qui précède celui qui a été donné l'an dernier. Histoire de la spiritualité. Que faut-il entendre par ce mot de spiritualité ? Je vous propose la définition suivante selon laquelle une spiritualité, une tradition spirituelle, est une certaine manière typée d'entendre et de vivre l'Évangile. La référence, évidemment, de toute spiritualité, c'est l'Évangile. Cette manière est conditionnée par une époque, d'où l'importance d'une démarche historique. Par un terreau, par un milieu, par des influences données. Elle peut s'incarner dans un milieu humain déterminé, dans un groupe humain déterminé, et se prolonger au long de l'histoire en s'enrichissant ou en s'appauvrissant. On va avoir un certain nombre d'exemples de cela. Et on passe dans ce cas-là, vous voyez, à une tradition spirituelle, quand il y a comme ça un premier noyau qui s'enrichit, qui se développe au fil du temps. Une tradition spirituelle, voire même une école de spiritualité. Alors, je dois reconnaître, en toute vérité, que les limites horaires de ce cours imposent évidemment beaucoup de choix. Et donc des renoncements souvent difficiles parmi une multitude d'auteurs qui auraient mérité à bien des titres d'être étudiés. Alors, le choix sera encore plus cornélien au XXe siècle, où là, on a quantité. Donc je vais faire, pour le XXe siècle, un petit panorama rapide. Et puis vous voyez qu'il y a trois noms sur lesquels on passera un peu plus de temps. Il y a quelque chose, évidemment, d'arbitraire. Alors, j'ai pris Charles de Foucault, j'ai pris Escrivá de Balaguer, et puis j'ai pris Kira Lubig. Bon, dans la mesure où chacun d'eux m'a semblé avoir une fécondité qui justifiait de les choisir. Alors, sur quels critères les auteurs dits spirituels ont-ils été retenus ou non dans le bref panorama que je vais vous proposer ? Eh bien, en fonction soit de leur apport original, donc des auteurs qui apportent quelque chose de neuf, relativement, si tant est qu'on puisse dire ça en spiritualité, ou alors des auteurs qui ont été au point de départ d'une influence sur la vie spirituelle du peuple chrétien. On peut avoir des gens qui redisent des choses qui ont été dites avant eux par d'autres, mais qui se trouve, si vous voulez, à une connexion d'événements, il y a une attente, et où ils ont un style, une façon de parler qui fait que c'est reçu et que tout de suite, on peut parler vraiment d'une influence spirituelle importante. Donc le fait est que j'assume ce choix, le choix que je vous propose, et j'assume notamment l'intérêt primordial donné aux grandes évolutions de la spiritualité commune et de ses manifestations. Faire l'histoire de la spiritualité catholique, c'est aboutir rapidement à un double constat. Vous verrez, c'est des choses quand même assez triviales. D'une part, il existe une concordance foncière entre tous les mystiques chrétiens quant au contenu de leur message. Heureusement. Une originalité trop marquée aurait même quelque chose d'inquiétant, d'un peu suspect. D'où l'aspect parfois fastidieux que revêt cette étude. On a souvent l'impression d'entendre, de réentendre des choses qui ont déjà été rencontrées, redites avec tel ou tel auteur. C'est normal. L'impression donc d'entendre souvent les mêmes affirmations décisives. Ça, c'est le premier point. Et pourtant, et voilà mon deuxième point, il existe aussi une multiplicité de points de vue sur l'expérience mystique elle-même. De là découle l'intérêt d'une mise en valeur des aspects originaux et complémentaires des diverses approches. Je termine cette introduction avec une remarque que j'emprunte à un jésuite qui s'appelle Charles-André Bernard, qui a longtemps enseigné la spiritualité à l'université grégorienne, et qui distingue trois perspectives ou trois modes d'approche de la vie mystique. Je crois que c'est quelque chose que vous pourrez conserver parce que ça donne une sorte de cadre, une sorte de classification. Bon, on peut toujours discuter, évidemment. Il y a d'abord des voies de l'intériorité à forte résonance anthropologique et avec une attention portée à la psychologie religieuse. Bon, ça va être le cas, par exemple, de Thérèse d'Avila. Une forte résonance anthropologique et une attention portée à la psychologie religieuse. Un autre mode qui expérimente l'union à Dieu en fonction quasi exclusive de la conformation au Christ. Et là, la conscience chrétienne se place d'emblée au centre du mystère chrétien. Enfin, on a la mystique apostolique, où le sens de Dieu est articulé sur la préoccupation de participer activement à la construction de l'Église, à l'œuvre missionnaire, à la rédemption opérée par le Christ. Bon, vous devinez évidemment que derrière cette troisième classification, cette troisième classe, il y a évidemment la figure de saint Ignace de Loyola. Donc, c'est une distinction commode et en même temps qu'il ne faut pas durcir tant les parois sont poreuses entre ces diverses approches. Alors, voilà ce qu'il en est de cette introduction brève. Nous allons maintenant commencer avec un premier chapitre où nous allons voir deux réalités qui vont se succéder dans le temps et à bien distinguer les mystiques réno-flamands d'un côté et la devotio moderna de l'autre. Je commence avec les mystiques réno-flamands. Ce terme de mystique rhénane est relativement récent. Il date du XIXe siècle. Il renvoie à la mystique d'une région, comme son nom l'indique, celle des pays de la vallée du Rhin. Alors, c'est la vallée du Rhin depuis la Suisse jusqu'aux Pays-Bas. Donc, vous voyez, on accompagne tout le Rhin, depuis la Suisse jusqu'aux Pays-Bas, en passant par la France et l'Allemagne. En tout cas, la partie la plus occidentale de l'Allemagne. Il renvoie aussi à une époque, le XIVe siècle. Et à une langue, le moyen au allemand. Vous voyez, on est encore, si vous voulez, dans un allemand ancien, très ancien, et en même temps une langue qui commence à évoluer, qui a déjà évolué. Alors, il faut rajouter une chose, c'est que les auteurs, les mystiques réno-flamands, écrivent aussi en latin. Vous avez chez chacun d'eux une œuvre latine et cette œuvre donc populaire en moyen au allemand. Peu à peu, la nature de cette mystique se dessine. Ses premiers historiens la décrivent comme l'expérience de l'unité de l'âme avec Dieu. L'unité de l'âme avec Dieu. Puis, ces historiens, toujours, ont fait un pas de plus, il me semble, en montrant que l'originalité de la mystique Descartes est d'inviter, alors, écoutez bien, à devenir par grâce ce que Dieu est par nature. devenir par grâce ce que Dieu est par nature. On peut dire que là, vous avez un axe fondamental. On va le rencontrer dans le texte qu'on va voir ensemble. C'est une mystique de l'être fondée sur l'évangile de Jean et articulée autour de la filiation divine. L'union à Dieu s'exprime différemment chez les trois principaux représentants de la mystique rhénane. Alors, on va comme ça faire connaissance avec eux et puis voir un peu les tonalités différentes. Elle aboutit chez Eckhart à la naissance du Christ dans l'âme. Alors, Eckhart, maître Eckhart, donc on aboutit chez lui à une mystique de la naissance du Christ dans l'âme. On va voir ce que ça signifie. Chez Suzeau, deuxième auteur important, c'est plutôt le thème de l'alliance avec la sagesse éternelle qui va être privilégiée. Et puis chez Tauler, à l'amitié divine. Autre point intéressant, c'est que la mystique rhénane est le résultat de l'effort de théologiens. Vous voyez, tous ces auteurs sont des théologiens très bien formés, on va le voir, des dominicains qui sont allés à l'école des plus grandes universités, qui sont eux-mêmes des maîtres en théologie, donc des théologiens, qui sont aussi des mystiques, et qui ont accompagné un milieu essentiellement féminin, de moniales, de béguines, de femmes qui avaient une vie spirituelle très importante, qu'ils ont accompagnées, qu'ils ont cherché à éclairer, et aussi à l'école desquelles ils se sont mis. Et il y a vraiment un va-et-vient. Ils ont reçu autant, sans doute, de ce milieu démonial qu'ils lui ont apporté. Donc, ce qu'ils ont pu lui apporter, c'est les éléments conceptuels d'une théologie pour analyser, classer, rendre compte en raison de ce qu'elle vivait. Et puis, dernier élément, tout ce qu'ils ont comme ça perçu, reçu, ils l'ont intégré dans un système théologique. On peut dire que le grand défi qu'ils ont rencontré, c'était de passer, voyez, du plan psychologique, dans lequel se traduisaient d'abord les expériences démoniales de ceux qu'ils accompagnaient, donc passer du plan psychologique au plan ontologique de l'être. Alors, je crois que c'est justice que de commencer par rencontrer un peu quelques-unes de ces femmes, puisque, je vous le redis, elles ont été souvent à l'origine des écrits des mystiques rhéno-flamands. Alors, il y en a une dont je serais bien incapable de prononcer le nom de juste façon, c'est, alors, je vais vous l'écrire, et puis... C'est une Flamande. Je ne sais pas si Alexa aura plus de facilité que moi. Je sais pas comment. Oui, mais je pense que la prononciation des Flamands doit être encore autre chose. Enfin, c'est donc une Flamande d'Anvers qui est un bon témoin de ce milieu, vous voyez, de cisterciennes, puis de dominicaines, puis de béguines, donc de femmes, vous voyez, qui ont été touchées comme leurs homologues masculins par le mouvement évangélique du XIIe, du XIIIe siècle, mais qui n'avaient pas, comme les hommes, la possibilité de se mettre à la suite du Christ dans la croisade, ou comme prédicateur, ou comme missionnaire, ou comme théologienne. Bon, à l'époque, c'était des portes qui leur étaient fermées. Et la seule porte, finalement, qui leur était ouverte, c'était celle de l'aventure intérieure. Vous voyez, tout cet élan évangélique à laquelle elle participait aussi s'est traduit pour elle, c'est traduit pour elle en expérience intérieure. Alors voici ce que Advich d'Anvers, qui est donc une moniale du XIIIe siècle, peut dire. L'âme se sent portée vers l'union immédiate, sans entre-deux ou sans milieu. Et c'est ça qui est intéressant, vous voyez, c'est chez ces femmes, et puis on va voir ça se poursuivre avec les mystiques réno-flamands, c'est une union immédiate, vous voyez, union immédiate, voilà, union immédiate avec l'essence de Dieu. Alors, vous voyez, quand elle dit, l'âme se sent portée vers l'union immédiate, sans entre-deux, sans milieu, elle contemple l'unité de Dieu ici, Père, oubliant ce qu'elle est et ce qu'elle fait, d'où un certain détachement à l'égard de l'agir, qui peut se traduire par un vocabulaire de type quiétiste, évidemment. Ça ne veut pas dire que l'âme n'agit pas, ni intérieurement, ni extérieurement, mais elle ne se sent pas agie et n'est pas arrachée à ce qu'elle appelle son loisir intime. Vous voyez, c'est difficile, hein, parce qu'il y a très certainement une expérience authentiquement contemplative qui fait que l'activité, évidemment, se réduit beaucoup. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est l'union immédiate. Ouais. On se perd ou on contemple l'unité de Dieu et on s'y perd. Le détachement porte sur l'exercice de la raison, sur les vertus, sur les œuvres accomplies. Il exclut toute recherche du créé, toute complaisance dans les dons de Dieu, dans ce qui a été donné à l'âme de faire pour lui, et de tout avantage personnel. Alors, vous voyez, dans cette petite phrase qui a la prétention de vous présenter toute une vie, hein, vous comprenez, ça c'est les limites de des réductions comme ça, je crois quand même que c'est intéressant de voir quelques éléments, le détachement dans cette marche vers Dieu, à la fois de l'exercice de la raison, donc d'une partie de l'activité personnelle, des vertus, des œuvres accomplies, donc tout ce qui a été fait pour Dieu, ça on le met de côté, toute recherche du créé, on est vraiment là dans un tout autre horizon spirituel de celui qui a pu être le chemin de beaucoup de mystiques qui passent par la contemplation du créé, oui, et qui de la contemplation du créé sont acheminés comme ça par la voie de la nature, hein, de la création au créateur. Là, non, c'est on va chercher une union immédiate. Donc on exclut toute recherche du créé, toute complaisance dans les dons de Dieu et dans ce qui a été donné à l'âme de faire pour lui, tout avantage personnel. L'idéal auquel on tend est que nul retour sur soi ne vienne entraver l'élan de l'âme et ne la retiennent, il faut vivre sans motif autre que Dieu seul. Oui, il y a quelque chose, je dirais, de Saint Jean de la Croix avant l'heure. Bon, c'est pas, faut pas s'en étonner. Donc, mystique de l'essence, la rencontre avec l'être de Dieu. Et en même temps, et c'est là où on est dans un milieu féminin, avec tout ce qui est la richesse de la mystique vécue par les femmes, c'est un autre aspect important, c'est la mystique nuptiale. Hein, mystique de l'essence et mystique nuptiale. Le vocabulaire de l'amour courtois, alors pour les non-européens, l'amour courtois, c'est cette forme de chant lyrique de l'amour humain entre le chevalier et sa dame, un amour souvent adultère, mais qui chante la beauté de la femme, qui chante sa grâce, qui chante tout ce qu'elle apporte. Alors c'est vrai que dans l'histoire de la culture européenne, ça a un sens important parce que c'est un indice d'une certaine, un progrès, si vous voulez, dans la relation entre l'homme et la femme avec plus de délicatesse, de finesse, d'intégration des éléments psychologiques, etc. Donc le vocabulaire de l'amour courtois est repris et transposé aux relations spirituelles entre l'âme et son Dieu. Démoniales comme Béatrice de Nazareth ou Mechthilde de Magdebourg ont su utiliser ce registre avec force et délicatesse. Alors voilà, rapidement, hein, trop rapidement pour ces moniales du XIIIe, du XIVe, et nous passons donc à Maître Eckhart. Maître Eckhart est considéré comme le père et le chef de la mystique rhénane. Et j'ajoute donc, il est aussi l'élève et le traducteur théologien de ces milieux féminins dans lequel il convenait de l'insérer. Je n'ai pas voulu commencer directement par lui, mais vous donner un tout petit aperçu, au moins rapide, de ce milieu dans lequel il vit et travaille. Il naît en 1260, en Thuringe. Il entre très jeune chez les dominicains, et il montre très précocement des dispositions pour la théologie. En 1302, donc vous voyez, il y a une quarantaine d'années, il devient maître en sacrée théologie. Ce qui est dans l'ordre dominicain, si vous voulez, la plus haute distinction, si on peut s'exprimer ainsi. Il réside d'abord à Strasbourg, puis à Cologne, où il exerce de hautes responsabilités dans son ordre. Et c'est durant cette période, vous voyez, à partir de 1314 à peu près, qu'il se consacre à la direction spirituelle des monastères de Monial. On a de lui une œuvre importante en latin, notamment un écrit qui s'appelle L'Opus Tripartitum. Bon, même si vous n'avez pas fait de latin, c'est facile à traduire, donc une œuvre tripartite, enfin, trois grands chapitres, d'une densité vraiment redoutable. C'est vraiment très spéculatif. Et on a aussi d'autres textes en allemand de lui. Alors, ce sont ces textes allemands qui vont poser problème. Parce que de quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont, en gros, des notes de sermons pris au vol par les auditeurs et qu'on a rassemblées et ensuite recopiées et qui ont circulé. Et ce sont ces textes, vous voyez, est-ce qu'ils sont tout à fait fiables? Évidemment, c'est à la merci de ceux qui prenaient les notes. Ce sont ces textes qui ont suscité des accusations suffisamment graves contre lui pour qu'il soit obligé de venir se défendre devant la cour papale en Avignon. Et c'est là qu'il meurt. Hein. Eckhart est mort en Avignon en 1327, sans avoir pu se disculper complètement, malgré une complète, une totale volonté d'orthodoxie. C'est un homme vraiment qui était, qui l'a dit, si vraiment dans mon œuvre il y a quoi que ce soit, je suis prêt à rétracter, mais aucune difficulté à ce niveau-là. Bon, alors, c'est très difficile hein, de juger ce qu'il en est, parce que, je le redis, d'abord, on n'a pas un écrit direct d'Eckhart, mais des notes de sermons pris au vol. Première difficulté. Deuxième difficulté, la subtilité de sa pensée. On va lire un peu, vous verrez que c'est quand même pas très simple, hein. Il faut vraiment réfléchir, suivre pas à pas une pensée quand même très spéculative. Et puis, l'autre difficulté, c'est la rencontre de genres très différents. On est un petit peu au point de rencontre de la métaphysique, de la théologie et de la spiritualité. Je le redis, c'est un très grand théologien spéculatif qui parle de mystique, souvent avec les catégories de la mystique. Alors, petite présentation de sa pensée, de son enseignement. Selon Eckhart, il existe dans l'âme un quelque chose, ce qu'il va appeler l'etvas, un quelque chose qu'on peut appeler le fond, mais dont aucune comparaison ne suggère convenablement la véritable nature. Et on porte tous en nous, dans notre âme, un fond de larmes. Deuxième élément, l'image de Dieu s'y trouve en quelque sorte imprimée. Vous voyez, c'est la part la plus secrète de l'âme et en même temps la plus proche de notre origine divine. Et c'est là que peut se créer un contact entre l'essence divine et l'homme. Vous voyez, c'est dans ce fond de l'âme que peut se créer un contact entre l'essence divine et l'homme, à condition toutefois que l'homme ait reconnu son néant face à l'être, et à l'être avec une majuscule, à l'être dans sa plénitude. Le renoncement fraye le chemin à la grâce. Alors, dit Eckhart, le verbe né dans l'Edvas et le mystique est désormais hanté, hanté, E-N-T, uni, et uni quasi ontologiquement, sur le Christ. La créature retourne au Créateur. Le stade de la vie active, des rites, des œuvres est franchi, celui de la contemplation commence. Et dans ce stade de la contemplation, Dieu accorde par pure grâce, c'est pas le fruit des œuvres, des mérites, Dieu accorde à l'âme de jouir de lui-même au-delà de toute catégorie intellectuelle, au-delà de toute image, au-delà de tout concept, dans une connaissance intuitive. L'âme se sent devenue une avec Dieu, perdue en lui, sans volonté propre. Eckhart reprend ainsi l'aspect négatif de la théologie du pseudo-Denis, donc une théologie très apophatique, on s'exprime surtout par négation. Dire ce qu'il en est de ce mystère, bon, c'est impossible, mais... Alors, on peut dire que Eckhart non seulement reprend la théologie du pseudo-Denis, mais la développe jusqu'à l'extrême limite du thème de la négation, puisque, voyez, au-delà de toute catégorie intellectuelle, pas d'image, pas de concept, c'est juste une connaissance intuitive. Alors, c'est là où on voit le passage démonial au théologien masculin, c'est que sa théologie, sa mystique, elle est toute intellectuelle, et là vous n'avez aucune. Le vocabulaire de la mystique nuptiale est quasiment absent. En tout cas, ne comptez pas sur lui pour les effusions sentimentales. À son fort. Alors, si vous avez quelque courage, nous allons lire ensemble un sermon de lui. Ce que vous avez sur la feuille. Alors, le sermon, c'est un sermon sur l'évangile où Jésus chasse les marchands du temple. Alors, vous verrez, c'est très subtil. Il remarque qu'il a chassé d'abord les marchands et que c'est une fois qu'ils sont partis, qu'ils ont tous été chassés, que Jésus commence à enseigner. Alors, voilà ce que Eckhart en tire. Jésus avait pénétré dans le temple et en avait rejeté ce qui achetait et vendait. Et il commença à dire « Enlevez cela !» Et ils l'enlevèrent. Voyez, il n'y a là plus personne que Jésus seul et il commença à parler dans le temple. Quand on dit plus personne que Jésus seul, ça signifie plus les marchands. Il y a évidemment son auditoire qui est là. Voyez, sachez-le en vérité, si quelqu'un d'autre que Jésus seul veut parler dans le temple, c'est-à-dire dans l'âme, Jésus se tait comme s'il n'était pas chez lui. Et il n'est pas non plus chez lui dans l'âme, car elle a des hôtes étrangers avec lesquels elle parle. Bon, vous devinez la conséquence, si on veut que Jésus nous parle, on parle dans notre âme, il faut évidemment faire un silence à tous ces hôtes étrangers qui viennent distraire l'âme. Mais si Jésus doit parler dans l'âme, il faut qu'elle soit seule et qu'elle se taise elle-même si elle doit entendre parler Jésus. Ah ! Et alors il entre et commence à parler. Que dit le Seigneur Jésus ? Il dit ce qu'il est. Qu'est-il donc ? Il est le Verbe du Père. Dans ce même Verbe, le Père s'exprime lui-même, et toute la nature divine, et tout ce que Dieu est tel qu'il le connaît, et il le connaît tel qu'il est. Alors, vous avez là déjà une bonne théologie, vous voyez, trinitaire, bon, un maître en théologie de l'ordre dominicain qui s'exprime. En exprimant le Verbe, alors, pardon, j'ai sauté une ligne, il le connaît tel qu'il est. Et comme il est parfait dans sa connaissance et dans sa puissance, il est parfait aussi dans sa parole. En exprimant le Verbe, il s'exprime lui-même et toute chose dans une autre personne. Il lui donne la même nature qu'il a lui-même, et il exprime dans le même Verbe tous les esprits doués d'intellect semblables à ce même Verbe selon l'image, dans la mesure où celle-ci demeure à l'intérieur, non pas cependant semblable de toute manière à ce même Verbe, selon qu'elle se répand au dehors, chaque image ayant son être propre, mais les images ont reçu la possibilité d'obtenir par grâce une similitude avec ce même Verbe. Bon, c'est assez dense. Hein. Je ne sais pas dans quelle mesure ça nous enseigne aussi, ou ça nous révèle le type d'auditoire que pouvait avoir Maître Eckhart. On peut penser qu'il avait en face de lui des moniales de haut vol, en tout cas des béguines, qui étaient rompues à ce genre de prédication. Si vous avez quand même réussi à suivre, vous voyez que vous avez toute une théologie de la procession du Fils, image parfaite du Père, et que vous voyez arriver les créatures, les esprits doués d'intellect, donc à la fois les anges et les hommes, semblables à ce même Verbe selon l'image, dans la mesure où celle-ci demeure à l'intérieur, mais non pas cependant semblables de toute manière à ce même Verbe. Il y a évidemment une différence. Selon qu'elle se répand au dehors, chaque image ayant son être propre, les anges, les hommes, etc. Mais les images ont reçu la possibilité d'obtenir par grâce une similitude avec ce même Verbe. Et c'est un petit peu ce que je vous dis, hein, ce qui est central dans la mystique Descartes et ce devant quoi il va s'extasier, c'est qu'il est donné à l'homme de devenir par grâce ce que Dieu est par nature. En tout cas, quelque chose de ce que Dieu, c'est plus juste, quelque chose de ce que Dieu est par nature. Alors, continuons la lecture, si vous avez encore un peu de courage. Et ce même Verbe, tel qu'il est en lui-même, le Père l'a totalement exprimé. Vous avez des passages de Saint Jean de la Croix qui sont très proches de ça, hein. En passant. Donc ce même Verbe tel qu'il est en lui-même, le Père l'a totalement exprimé. Le Verbe et tout ce qui est dans le Verbe. Le Père s'étant ainsi exprimé, que prononce donc Jésus dans l'âme ? Ainsi que je l'ai dit, le Père exprime le Verbe et s'exprime dans le Verbe, non autrement, et Jésus parle dans l'âme. Le mode de sa parole, c'est qu'il se révèle lui-même, ainsi que tout ce que le Père a exprimé en lui, selon le mode dont l'esprit est réceptif. Ah oui, ça dépend évidemment de la manière dont l'homme reçoit. Vous voyez, le mode de sa parole, celle du Verbe, c'est qu'il se révèle lui-même, ainsi que tout ce que le Père a exprimé en lui. Il révèle la souveraineté paternelle dans l'esprit de l'homme, hein, petit esprit. Il révèle la souveraineté paternelle dans l'esprit, dans la même puissance incommensurable. Quand l'esprit reçoit cette puissance dans le Fils et par le Fils, il progresse lui-même puissamment, en sorte qu'il devient semblable et puissant dans toutes les vertus et en toute parfaite pureté, si bien que ni joie, ni souffrance, ni tout ce que Dieu a créé dans le temps n'est capable de troubler l'homme, et que bien plutôt, il y demeure puissamment comme en une force divine à l'égard de laquelle toutes choses sont petites et impuissantes. Alors, c'est là une description théologique de la contemplation. En second lieu, Jésus se révèle dans l'âme avec la sagesse infinie qu'il est lui-même. Dans cette sagesse, le Père se connaît lui-même avec toute sa souveraineté paternelle, ainsi que ce même Verbe qui est aussi la sagesse même et tout ce qui est inclus comme étant le même un. Bon, voilà un petit aperçu d'un géant, hein. Il faudrait évidemment avoir beaucoup plus de temps, mais là, c'est un peu la gageure de ce cours, hein. On parcourt ça à toute vitesse. Oui.
Là, il ne fait pas mention de l'Esprit Saint. Est-ce que c'est dans l'époque ou est-ce qu'ailleurs l'Esprit Saint fait partie de sa mystique?
Si. L'Esprit Saint. Alors, ça va apparaître davantage avec d'autres auteurs, hein, on va le voir, mais oui, l'Esprit Saint aussi. C'est vraiment des hommes qui ont une théologie tout à fait rigoureuse, tout à fait au point, et l'Esprit Saint est aussi présent. Là, évidemment, c'est l'Évangile commenté se prêtait moins à parler directement de l'Esprit. Et puis, j'ai pris qu'un extrait. Hein. Bon. Alors, on va passer à un autre auteur, Jean Tauler, dominicain, comme Eckhart, plus jeune que lui, puisqu'il naît en 1300 à Strasbourg. Hein, on est 40 ans après Eckhart, donc vous voyez une génération d'écart. Jean Tauler a été non seulement et dominicain, mais il a été aussi disciple d'Eckhart à Cologne. Devenu prédicateur de renom, il exerce son activité en Rhénanie, toujours dans cette même région, vous voyez, donc la vallée du Rhin, mais alors plutôt à la hauteur de l'Allemagne, de l'Alsace actuelle. On est sur les deux versants du Rhin, à la hauteur de Alsace d'un côté, Rhénanie de l'autre. Et il entre en relation à Bâle actuellement en Suisse, avec un groupe de mystiques qui s'appelle les Amis de Dieu. Tauler s'est beaucoup occupé des moniales de son ordre, dont certains couvents deviennent de véritables écoles de mystiques. Alors, là, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous preniez la mesure de ce que pouvait être la vie religieuse au Moyen-Âge dans une ville comme Strasbourg. Je n'ai pas regardé la population de Strasbourg à l'époque. C'est une estimation, il y avait peut-être 30 000 personnes, 30 000 habitants. C'est la taille d'une ville, d'une grosse ville médiévale. Peut-être 30 000, 40 000 habitants. Eh bien, dans cette seule ville de Strasbourg, on comptait 7 couvents de moniales contemplatives, on dirait, hein, dominicaines essentiellement, et 70 béguinages qui comptaient entre 6 et 24 dévotes. Ça fait une population. Dans cette ville, il y avait peut-être 3000, 4000 moniales ou béguines, ou etc. Donc vous voyez, c'était un véritable ministère. Il fallait faire œuvre d'accompagnement et de discernement. À sa mort, Tauler n'a rien publié, mais ses sermons recueillis, eux aussi, circulent dans les milieux spirituels réunants. Alors, c'est un homme qui est beaucoup plus prudent qu'Eckhart. Bon, d'abord, parce qu'il a vu ce qu'il en était avec la condamnation d'Eckhart. Donc, il évite les formules trop hardies Mais en même temps, il va reprendre complètement l'enseignement de son maître, le développer avec prudence, avec peut-être plus de clarté qu'Eckhart. Ce qui importe à Tauler, c'est de rendre accessible cet enseignement. Vous voyez, d'une certaine façon, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'enrichit pas l'enseignement d'Eckhart, mais en même temps, il le rend accessible par des comparaisons plus familières, alors que le vocabulaire théologique essentiel reste celui de son maître.
Il meurt en quelle année ?
Il meurt, bonne question, je ne l'ai pas mis ici. Je chercherai ça, promis. Alors, chez Tauler, l'intériorité n'est pas un repli sur soi. Elle est ouverture au monde infini de Dieu. Évidemment, hein, puisque dans ce tréfonds de l'âme, il y a la possibilité d'entrer en contact avec l'essence même de Dieu, évidemment. Ah, c'est un lieu d'ouverture. Et c'est à partir de cette intériorité que doit se régler l'extériorité de l'homme. Petite citation de lui, l'intérieur surveille de très près l'extérieur, comme un maître de chantier qui fait travailler sous ses ordres beaucoup d'apprentis et de manœuvres et qui ne travaille pas lui-même. Il ne vient que rarement sur le chantier. Rapidement, il esquisse le plan et l'ordonnance est de l'œuvre. Ensuite, chacun exécute la tâche fixée. Voilà le type d'image qui évidemment parle beaucoup à des Strasbourgeois qui sont en ce moment, ou à des gens de Cologne, qui voient sortir de terre les cathédrales splendides de ces deux villes. Ça dit quelque chose, vous voyez, un maître de chantier, on voit ce que c'est. Et quand il va prendre cette image, l'intériorité de l'âme, c'est comme le maître de chantier. Et qui règle tout, vous voyez, qui donne un peu, qui règle notre agir, qui règle nos pensées, qui règle tout ça, c'est parlant. Troisième auteur, Suzo. À nouveau un dominicain, à nouveau un disciple direct d'Eckhart durant ses études à Cologne. Vous voyez, on pourrait dire, Eckhart a eu deux fils, plan spirituel s'entend évidemment, Suzo et Tauler. Chez Suzo, vous avez un homme qui est peut-être plus expansif, plus sensible. Et Suzo, qui est, comme Tauler, très reconnaissant à Eckhart de ce qu'il a reçu de lui, écrit, alors vraisemblablement vers 1329, ce qu'il intitule « Le livre de la vérité », où il défend sous la forme d'un dialogue l'enseignement de son maître en donnant de ses idées une vue moins paradoxale. On a aussi de lui le livre de la sagesse éternelle. Le livre de la sagesse éternelle. Voici ce qu'en dit un historien qui s'appelle Jacques Paul. C'est un ouvrage de piété où la méditation s'attarde sur les souffrances du Christ, décrites avec un bouleversant réalisme. Et c'est là, vous voyez, on voit un petit peu la sensibilité de Suzo, très sensible, qui est capable justement d'écrire un livre où il médite sur les souffrances du Christ et dans lequel il va partager un petit peu tout ce qu'il y a de bouleversant dans la réalité de la Passion. Lui aussi va utiliser des images. Voici l'image qu'il utilise pour décrire l'unité que réalise la contemplation mystique. Donc l'unité que réalise la contemplation mystique. Eh bien, il prend l'image de la vue. l'œil devient un avec son objet. Évidemment, les deux restent à distance, vous voyez, mais l'œil devient un avec son objet, dans la mesure où l'objet s'imprime très profondément dans l'œil. Et cependant, chacun des deux demeure ce qu'il est. Alors voilà une image, vous voyez, pour exprimer l'union de l'âme avec Dieu. Dieu s'imprime très profondément dans l'âme, et en même temps, il reste ce qu'il est. Plus que Taoleur, il insiste sur les aspects concrets de la vie spirituelle. Alors, on va voir un dernier auteur qui s'appelle Ruysbroeck. Là aussi, hein, je prononce mal parce que ça n'est plus un Rhénan à proprement parler, c'est plutôt un Flamand. Ruysbroeck l'Admirable, c'est son nom. Enfin, c'est le nom qu'on lui a donné. Mais ça dit quelque chose de l'image qu'il a donnée. C'est le dernier grand représentant de la mystique rhéno-flamande, donc Jean Ruysbroeck, qui naît dans le Brabant. Le Brabant, c'est en Belgique actuelle, en 1293. Il est prêtre et chapelain de l'église Sainte-Gudule, voilà, c'est comme ça, Sainte-Gudule de Bruxelles. Et il vit une forme de conversion au point qu'il se retire avec quelques compagnons en 1343 dans un ermitage en pleine forêt. Alors, le temps d'ermitage va un peu évoluer et le groupe va prendre l'habit des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est un écrivain fécond qui utilise le dialecte brabançon. Vous voyez, un peu comme ces grands théologiens qui ont laissé, dont on a conservé quantité de sermons dans la langue du peuple. Hein, le haut allemand, lui, c'est plutôt le dialecte brabançon de sa région. Son œuvre se distingue par un goût plus grand pour l'expérience et le vécu. Et c'est un peu moins spéculatif. Il y a une moindre insistance aussi sur le dépouillement intérieur. Et finalement, il y a peut-être un équilibre dogmatique plus assuré. En tout cas, il n'y a pas eu les suspicions qui ont frappé Descartes chez lui. La méditation du dogme trinitaire tient cependant beaucoup de place chez lui, et même presque plus que chez les Rhénans. Il affirme aussi plus nettement, et ça évidemment c'est des choses qui vont plaire aux autorités ecclésiales, il affirme beaucoup plus nettement que les autres que l'union ne produit pas l'identification, attention, hein, union mais pas d'identification. Donc les choses sont peut-être plus sûres. Et la créature ne se confond jamais avec le créateur. Alors attention, ça ne veut pas dire que les mystiques rhénans le disaient, hein, mais il y avait certaines formules qui pouvaient évidemment prêter à confusion. Ici, là, les choses sont très très claires, et Ruysbroeck le dit clairement. Il a plus minutieusement et plus méthodiquement, que les rhénans décrit l'itinéraire que l'homme doit parcourir avec l'aide de la grâce, avant de se retrouver en Dieu. Il y a quelque chose de plus pédagogique chez lui, mais peut-être que les besoins n'étaient pas les mêmes. Hein. Les autres s'adressant essentiellement à des moniales qui avaient déjà, on peut le présumer, parcouru déjà un riche itinéraire, bah, évidemment, ils pouvaient peut-être passer plus vite sur les méandres de l'itinéraire. Alors voilà un petit mot de conclusion sur les rhénans flamands. Bon, vous devinez un peu à la lecture du sermon qu'on a travaillé ensemble que quand même cette mystique spéculative de haut vol a finalement peu pénétré dans la masse du peuple chrétien. Bon, ça, ça ne va pas vous étonner. Il faut quand même avoir une certaine capacité à l'abstraction ou avoir une haute expérience spirituelle pour lire comme ça Maître Eckhart ou les autres prénoms flamands. Donc, cette mystique spéculative, hein, et j'insiste sur l'adjectif, une mystique spéculative, a peu pénétré dans la masse du peuple chrétien. Oui, mais voilà qu'elle a traversé les siècles. Et on peut dire qu'aux époques les plus diverses, toutes les âmes d'élite et quasiment, peut-être pas au XXe, peut-être pas au XIXe, mais vous verrez, au XVe, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, tous les auteurs, quasiment tous les auteurs que nous allons rencontrer ont lu les mystiques réno-flamands. Vous voyez, on ne peut pas dire que c'est populaire, mais en même temps, ça rejoint à peu près tous les grands mystiques, tous les grands spirituels. Saint Ignace les a lus, Saint Jean de la Croix les a lus, et des auteurs, Bérulle les a lus, enfin tous les auteurs, tous les grands auteurs de ces périodes les ont lus. C'est dans cette seconde dimension d'inspiratrice partielle des spirituels espagnols du XVIe, des Français du XVIIe, que la mystique réno-flamande trouve sa véritable portée. En 1537, alors ça, dernier témoignage, vous voyez, un témoignage assez tardif, hein, 1537, on est vraiment dans, on a dépassé le premier tiers du XVIe siècle, hein, c'est l'époque du vœu de Montmartre, c'est l'époque de la naissance de la Compagnie de Jésus. En 1537 encore, est éditée l'une des dernières productions du courant réno-flamand, ce qu'on appelle la perle évangélique, dont l'auteur, peut-être une femme, demeure inconnue. Je ne sais pas qui en est l'auteur. Mais l'ouvrage connaît aussitôt un succès considérable. Vous voyez, donc c'est intéressant, parce que ça montre que deux siècles et demi, quasiment, en tout cas plus de deux siècles après Maître Eckhart, vous avez encore des écrits, des productions vraiment dans la veine réno-flamande qui connaissent un succès d'édition très important. Donc on le constate, le mysticisme réno-flamand garde sa continuité et sa cohérence à travers une grande partie du XVIe siècle. Alors, il y a un seul problème pour lui, c'est que malheureusement en son temps, c'est que Martin Luther n'a pas hésité à dire et à dire à haute voix toute l'estime dans laquelle il tenait les mystiques réno-flamands. Alors du coup, évidemment, côté catholique, on s'est un peu méfié. Donc on a continué à lire les mystiques flamands, mais de façon plus discrète. Et alors, il y a eu Luther, il y a eu aussi les courants alumbrados, les luminismes espagnols du XVIe siècle, qui se réfèrent évidemment beaucoup, vous devinez. Cette mystique de l'essence, sans image, sans concept, qu'on rejoint directement, à la limite, sans trop passer par l'humanité du Christ, communication des essences, enfin, tous ces thèmes-là, évidemment, ça peut prêter le flanc à des développements complètement illuministes. Et vous comprenez qu'en 1559, dans le grand index des écrits prohibés, eh bien, les mystiques réno-flamands sont quasiment tous inscrits. Il est interdit en Espagne de lire les réno-flamands à partir donc de cette année 1559.
Non, mais pour Luther, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'il a dit, parce que c'est plutôt anti-mystique le protestantisme. Enfin, donc je ne vois pas trop quel point d'accroche il a avec. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été suspectés comme ils étaient suspectés, donc pour le coup il y a une affinité?
Non,
je ne vois pas trop ce qu'il attire chez les mystiques. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était. Enfin,
c'est un peu. C'est une très bonne question. Moi je pense qu'un des éléments, c'est qu'ils appartiennent, ce sont des écrivains religieux, qui appartiennent à la langue allemande, au génie allemand. Hein, et ça, Hitler. Je suis fatigueuse. Luther est très sensible à ça. Hein, très sensible à ça. Il y trouve, je pense, quelque chose du génie aussi, du génie religieux, le plus auquel, de façon très légitime, peut être attaché.
Il y aurait une dimension un peu nationaliste, alors, plus que...
Non, nationaliste, c'est trop dire. Mais je pense que ça, ça a été un élément. Et puis, je pense aussi qu'il y a... Enfin, Luther aussi, là, il faut faire attention. Hein. Il y a aussi, chez Luther, un homme qui a été un religieux très fervent, un religieux réformé, un religieux qui a eu une vie religieuse profonde, spirituelle profonde, et qui certainement, comme jeune religieux ermite de Saint-Augustin, s'est nourri auprès des Rénaux flamands. Donc, non, c'est pas si anormal que ça que Luther les ait appréciés et qu'il les dit. Voilà. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, nous nous retrouverons pour parler de la Devotio Moderna. Hein, donc, ce sera un élément de notre prochain cours. Et puis, on passera à Ignace de Loyola et à la spiritualité jésuite. Alors, ce sera en même temps que la présence du père Huet. Alors, ça va être une concurrence difficile à soutenir de ma part. Disons que lui va développer beaucoup plus avant ce que je pourrais vous dire sur Saint-Louis. Voilà.